C'est un podcast Vivre FM. Vivre, c'est épatant sur Vivre FM.
Il nous détruisait, c'est par ces mots que la maman de Stan, 5 ans, se plaignait il y a quelques années. Depuis, son fils a été diagnostiqué bipolaire cyclothymique. Il reçoit un traitement qui permet à tous d'aller mieux et de vivre ensemble. Laetitia Payen raconte son histoire dans Mon enfant cyclone aux éditions Flammarion. Elle est notre invitée.
Vous écoutez Vivre c'est épatant avec Carole Clémence.
Bonjour Laetitia.
Bonjour.
Alors Laetitia, votre fils avait 5 ans, c'était la période la plus dure de sa vie et de la vôtre, quand sa crise, ses crises étaient très très fortes. Aujourd'hui ça va mieux, il a 13 ans, hein, c'est ça?
Exactement.
Il est traité, alors on va en parler. Vous débutez votre livre à la naissance de Stan, votre fils.
Oui.
Et dès la naissance, c'était compliqué.
Oui, en fait, dès la naissance, ça a été un enfant agité, difficile. Il dormait peu, il pleurait beaucoup. Mais à cette période-là, il a eu aussi beaucoup de problèmes de santé. Il a été plusieurs fois hospitalisé. Il a même été opéré. Donc au départ, on mettait ça sur ses problèmes de santé.
Oui.
Mais après ces 2 ans, en fait, il a continué à avoir beaucoup de troubles de sommeil. Et tous les gestes de la vie quotidienne sont devenus impossibles. Donc c'était, par exemple, mettre son manteau, aller au bain, le mettre dans son siège auto. En fait, tout n'était que crise, il n'était que rage. Et ça entraînait, en fait, il y avait une intolérance à la frustration qui était extrême. Et ça entraînait des crises d'une intensité terrible qui pouvaient durer plusieurs heures et qui se produisaient plusieurs fois par jour.
Oui, oui. Et alors, vous vous inquiétez, vous pensez qu'il a quelque chose d'anormal ou que c'est un enfant colérique, tout simplement?
Alors, au début, on culpabilise beaucoup. On se demande ce qu'on a loupé, surtout qu'on a une fille qui est de 3 ans, son aînée, avec laquelle on n'a jamais eu de soucis, qu'on élève de la même façon. Donc ensuite, il y a eu d'autres symptômes qui sont apparus. Il a eu pas mal de tocs. Par exemple, pour aller se coucher, il fallait que ses chaussons soient parfaitement alignés sur les lames du parquet. Il fallait que, pour manger, ses couverts soient parallèles à son assiette. On a eu aussi des problèmes d'hypersensorialité. Il pouvait, à l'école par exemple, il lui est arrivé de ne pas supporter le parfum de la maîtresse, le bruit aussi à la cantine, la chaleur pouvait être un élément déclencheur des crises. Donc avec les classes surchauffées, c'était compliqué. À la maison, il avait tout le temps chaud, donc le feu de cheminée était absolument interdit. Donc voilà, et avec tout ça, on a eu aussi ensuite la violence qui s'est rajoutée.
À partir de quel âge, la violence ?
Vers 4-5 ans, violence physique, violence verbale. À l'époque, moi, j'étais couverte de bleu parce que j'étais obligée de le contenir pendant ces crises pour pas qu'il se blesse déjà lui-même et pour pas qu'il détruise tout autour de lui, en particulier quand on n'était pas chez nous. À 5 ans, il était capable de casser la porte de sa chambre, de balancer toutes les lattes de son lit à travers la cage d'escalier. Il a été sorti d'un musée par des vigiles. Donc voilà, on
C'était
a eu.
Les vigiles qu'il tenait.
Ouais, on a eu aussi beaucoup d'insultes, de harcèlement. Et il était capable de me dire, maman, quand est-ce que tu pleures? Parce que moi, j'aime bien quand tu pleures. Ou alors il prenait un objet, il me disait c'est ton préféré celui-là et il l'éclatait contre le mur.
Oui.
Donc c'était extrêmement difficile. Et puis il y avait plein d'autres petites choses comme me souffler dans les oreilles ou faire le même bruit 50 fois par jour. Donc en fait ça rend complètement dingue.
Ça rend fou, oui. Oui. Et alors votre enfant, vous en avez ras-le-bol. Est-ce qu'à un moment on se dit mais je ne vais plus pouvoir l'aimer cet enfant, ça, c'est plus possible?
Oui, ça nous traverse l'esprit parce qu'on est tellement fatigué qu'à un moment on bascule et on se dit même avec son papa, on a songé à divorcer, pas parce qu'on s'aimait plus, mais pour avoir du répit une semaine sur deux. Mais en même temps, il avait cet autre côté où il pouvait changer d'humeur très rapidement. Et juste après une crise de colère, il pouvait avoir de grands élans affectifs, en fait, où il nous disait « Papa, maman, je vous aime tellement fort que je voudrais monter sur une scène pour le dire à la planète entière. » Donc il y avait ces deux facettes. Et même à l'extérieur, on pouvait me dire « Madame, vous avez drôlement de la chance d'avoir ce petit garçon. Il est tellement intelligent, drôle, sage, qui était vrai d'ailleurs. On voudrait le même. » Donc voilà, c'était vraiment hyper déstabilisant pour nous. Et puis, en dehors des crises, il verbalisait aussi beaucoup, donc ça nous montrait aussi sa souffrance. Il était capable de me dire, quand je suis en crise, je me sens comme un volcan en éruption. C'est comme si j'étais enfermée dans une pièce dans laquelle je ne possédais pas la clé. Mon cœur remplace mon cerveau, donc on se dit, Oui, il y a quelque chose d'autre, faut continuer à explorer.
Et il y a une vraie réflexion, hein, dès tout petit chez
lui. Oui, dès tout petit. Il était conscient, en fait, qu'il était dysfonctionnel. Il nous disait, à force de mes crises, vous allez finir par ne plus m'aimer, vous seriez mieux sans moi. Et puis un jour, même, je discutais avec sa sœur de ce qu'elle voudrait faire plus tard, et je lui pose la question, et il me répond, mais maman, plus tard, je ne ferai rien, je me tuerai. Jusqu'à une scène assez terrible qui est restée ancrée dans nos mémoires, où en rentrant de la garderie, en fait, il va passer à l'acte, c'est-à-dire qu'il est contrarié pour une raison quelconque. Je le tiens par la main, il m'échappe et il se jette sous les roues d'une voiture. Et vraiment, c'était quelque chose de réfléchi, c'était pas juste impulsif. Il avait vraiment envie de mettre fin à ses jours.
À 5 ans.
Voilà, c'était un électrochoc pour nous, et j'ai continué à chercher parce qu'on avait eu tout un tas de diagnostics, de suppositions. On nous avait parlé de haut potentiel en premier, puis de TDAH, trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, ou aussi même de troubles autistiques. Et même s'il y avait beaucoup de ressemblances dans tous ces diagnostics, il y avait toujours quelque chose qui ne collait pas complètement, en fait.
Oui, oui. Et vous avez pensé à l'emmener chez un psy, à l'hôpital, pour trouver quelque chose ?
Alors oui, la première démarche a été effectivement de le faire suivre par un psychologue. Mais c'était ça nous a beaucoup aidé, nous. Mais lui, en fait, ça continuait de s'aggraver, en fait.
Oui. Alors, vous racontez bien dans votre livre « Mon enfant cyclone », le tabou des enfants bipolaires aux éditions Flammarion. Vous racontez bien la démarche de trouver un diagnostic. Ça a été long, hein, ça n'a pas été très facile. Et puis l'évolution. Il faut savoir que votre fille, sa grande sœur, souffrait beaucoup de cette situation. Et elle a eu besoin elle-même d'être aidée par une psychologue pour aller mieux.
Oui, tout à fait. En fait, dans ce type de trouble, toute la famille souffre, en fait. Et ma fille me disait, quand mon frère est en crise, j'ai l'impression d'être un fantôme. Donc effectivement, elle a eu beaucoup de problèmes de harcèlement à l'école. Elle se laissait faire, elle était hyper triste. Et en fait, quand on a consulté cette psychologue pour elle, au bout de quelques séances, elle nous a dit, mais en fait, ce qui ressort dans les séances, c'est son frère. Donc moi, j'aimerais bien le voir, ce petit bonhomme.
Oui, oui. Voilà. Et elle l'a vu, mais il n'y a pas eu tout de suite ce diagnostic de cyclotymie.
Non,
c'est vous qui êtes allée sur Internet.
Exactement. En fait, à partir du moment où il y a eu mise en danger, moi, je me suis dit qu'un suivi psychologique ne serait pas suffisant, qu'il fallait creuser. Et du coup, en fait, dès que j'avais du temps libre, en fait, je retournais tout Internet le soir, la nuit. Et puis un jour, je tombe sur le site de l'association Bicycle, une association donc, qui vient en aide aux familles d'enfants et d'adolescents qui souffrent de cyclotymie de bipolarité juvénile. Et là, en fait, c'est la révélation. Tout s'éclaire, tout colle. On se dit qu'on n'est pas fou, qu'il y a d'autres parents qui vivent la même chose que nous. Et en lisant les témoignages sur le site, je me dis que c'est l'histoire de notre vie, en fait.
Oui, oui. Et alors, vous avez pu être aidé à partir de ce moment-là. On va quand même revenir sur l'état de Stan lorsqu'il avait 5 ans, ses crises. C'est très difficile à supporter parce qu'il y a une grande violence contre les autres, mais contre lui-même également. Et il y a l'entourage, la vision des passants, la vision des proches, la vision des collègues au bureau. On se dit, mais votre enfant, il faut lui donner une claque, il va se calmer.
Enfin, c'est
il est trop gentil avec lui.
Oui, il y a le regard des autres qui est toujours difficile à supporter. En fait, à l'association, on dit que c'est la double peine, en fait, parce que non seulement on doit supporter les crises de notre enfant, mais on doit aussi se justifier. Nous, la première chose, on a beaucoup culpabilisé, mais on a eu la sensation d'avoir tout essayé. On a beaucoup remis en question notre éducation. On a essayé toutes les méthodes, les punitions, l'éducation bienveillante, mais en fait, rien n'avait de prise sur Stanislas. Donc effectivement, après, vous vous renfermez parce que c'est extrêmement compliqué à gérer. Toutes les sorties, en fait, sont soit gâchées, soit écourtées. Donc à un moment, c'est plus facile de s'isoler, de rester chez soi.
Oui,
honte aussi.
C'est ce que vous avez fait, oui. Vous pouvez nous donner un exemple, peut-être des réflexions qu'on vous a faites ou qu'on peut faire à un enfant cyclotymique, aux parents d'un enfant cyclotymique qui est en crise, les gens ne comprennent pas.
Oui, il y a des baffes qui se perdent, une bonne fessée et puis ça ira mieux. C'est parce que vous n'êtes pas assez ferme. Enfin, voilà, c'est ce genre de réflexion.
Et justement, votre père, à vous, il était ferme avec Stan. Et ça fonctionnait pas.
Alors au départ, oui, c'est vrai que souvent on a besoin de le vivre vraiment pour le comprendre. Et oui, il avait effectivement une éducation plutôt sévère, mais en fait, il a changé assez rapidement parce qu'il a été confronté. Enfin, il s'est rendu compte que de réagir de façon ferme, ça entraînait une escalade de la violence.
Oui.
Et c'était aussi insupportable pour Stanislas que pour lui.
Parce que Stanislas n'a pas de limite, c'est-à-dire qu'il peut...
Il n'a pas de limite. En fait, c'est des enfants qui n'ont pas de problème au niveau de la connaissance de la limite, mais ils la franchissent systématiquement. Donc, c'est vraiment pas un problème éducatif.
Oui, oui.
Ils sont débordés, en fait, par leurs émotions. C'est un tsunami émotionnel.
Oui. Et donc, lorsqu'on se trouve confronté à un enfant cyclotypique, dans un magasin, dans la rue, à l'école, il ne sert à rien d'élever la voix, de se dire il est mal éduqué. C'est pas ça.
Exactement.
C'est une maladie, c'est un trouble.
Exactement. Si on fait une IRM, en fait, on voit que le cerveau de ces enfants, la partie qui permet de penser, de réfléchir, est complètement noire. C'est comme s'il y avait un court-circuit du cerveau. Donc, c'est complètement contre-productif. Là, ce dont a besoin l'enfant, c'est qu'on soit son phare dans la tempête. On est là pour rassurer. De toute façon, quand la crise est là, il n'y a plus rien à faire. C'est trop tard. On n'approche pas d'un volcan en éruption. Donc, on est là. Il ne faut pas ignorer non plus. Mais on essaye de garder la communication et d'être là en cas de besoin.
Oui, et c'est ce que vous avez fait, et les choses se sont améliorées. Comme on va le voir dans quelques minutes, Laetitia Payen, je rappelle le titre de votre livre, « Mon enfant cyclone » aux éditions Flammarion.
Vous écoutez « Vivre, c'est épatant » avec Carole Clémence.
Nous sommes avec Laetitia Payen, l'auteur de « Mon enfant cyclone » aux éditions Flammarion, le tabou des enfants bipolaires cyclotymiques, puisque c'est le cas de votre fils Stan. Vous suivez la naissance de votre fils dans votre livre, c'est le début du livre, jusqu'à ses 13 ans je crois, hein, vous terminez le livre à ce moment-là à peu près. Votre enfant qui est cyclotymique, qui a été diagnostiqué vers ses 5-6 ans, je ne sais plus exactement. Voilà. Et les choses ont commencé à s'améliorer avec le traitement, la thérapie. Et aujourd'hui, il va beaucoup mieux. Il n'a plus ses crises, en tout cas très peu ou beaucoup moins qu'avant, puisque lors de ses 5 ans, il avait des crises continuelles toute la journée.
Tout à fait, plusieurs fois par jour. Et tout pouvait faire étincelle, en fait. On marchait sur des œufs en permanence.
Voilà. Et alors, donnez-nous un exemple de ce que vous avez appris à faire pour améliorer les choses, pour contrer ces crises qui allaient survenir. Vous en donnez dans votre livre, par exemple.
En fait, on apprend à avoir un regard différent sur son enfant. On apprend à ne pas s'arrêter au comportement aussi... insupportable soit-il, inadmissible. On apprend à chercher l'émotion qui est derrière pour pouvoir aider l'enfant, accompagner l'enfant pendant sa crise. Effectivement, à l'époque, même par exemple, séparer deux petits Suisses, c'était quelque chose d'impossible. Ça pouvait le faire partir en vrille immédiatement.
Et pourquoi ?
Parce que c'était, il fallait pas. Voilà.
D'accord.
Il y a eu par exemple aussi l'exemple, un jour il mangeait une soupe et puis il avait décidé que c'était pas possible, il mangerait pas sa soupe. Il est parti en crise complètement et en fait toujours accompagner l'enfant, verbaliser ses émotions. Et on lui a dit, on voit que c'est difficile pour toi, mais si tu veux, peut-être qu'avec une paille, ça irait mieux. Et voilà, tout de suite, ça fait retomber la crise. Enfin, c'est des petites astuces comme ça. Vraiment, toujours chercher l'émotion qui va derrière. Ne pas prendre pour soi, en fait. Ça, c'est très important, les manifestations du trouble de l'enfant.
Oui.
Pas penser que l'enfant nous déteste, nous aime pas.
Qu'il fait ça juste pour embêter.
Exactement. Et ça nous permet ensuite de plus se battre l'un contre l'autre, mais ensemble contre la maladie.
Oui, oui. Et vous y parvenez. Des conseils précieux de la part des psychologues qui sont spécialisés dans la cyclotymie. Il faut vraiment ne pas se braquer lorsque un enfant fait une crise. Qu'est-ce que vous conseillez ?
Non, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment, on est dans ces moments-là, le phare dans sa tempête, en fait, et en adoptant les bons comportements, ça permet, en fait, à l'enfant, par notre intermédiaire, de reprendre le contrôle, en fait, sur sa crise, et c'est très rassurant pour lui.
Oui, oui. Et alors, il souffre quand il fait sa crise. Il
oui,
souffre.
Tout à fait. Alors, on essaye d'enlever le plus de stimuli possible, c'est-à-dire on va baisser la lumière. Si y a de la musique ou la télé, on va l'éteindre. Et vraiment, on est là pour l'enfant. On l'ignore pas, mais on essaye de pas rompre la communication, mais en étant le plus calme possible, en fait.
Ça marche pas l'ignorer ?
Non, pas du tout. Non, non, ça peut au contraire aggraver la situation.
Oui. Ouais. Et alors, ce qui est spécifique à ce trouble, la cyclothymie, c'est que, spécifique ou pas, c'est que à l'extérieur, il fait quand même moins de crises. Lorsqu'il ne connaît pas les gens, il fait moins de crises. Il lui faut un petit temps pour connaître les gens, pour éclater, en fait.
Exactement. Quand il est hors zone de confort, effectivement, il y a un moment d'adaptation. Parce que, alors on dit que c'est aussi un besoin de réassurance par rapport à la figure d'attachement. Il ose être qui il est vraiment avec ceux dont il est sûr qu'ils l'aimeront toujours d'un amour inconditionnel, en fait.
Oui, oui, oui. Il ne va pas se permettre de faire ça avec des étrangers.
Ça peut arriver, mais ça sera jamais dans des proportions du huis clos familial.
Oui, oui, oui.
C'est toujours en format XXL à la maison.
Et alors, il y a les coups, vous en avez parlé. Et puis, la souffrance, c'est, il pense au suicide,
oui,
tout petit.
Tout à fait. Il nous parle beaucoup de la mort. Et donc, oui, c'est...
C'est terrible.
C'est assez terrible. Et c'est ça qui nous a provoqué... un électrochoc, on se dit, il y a forcément quelque chose d'autre, mais quoi à l'époque.
Et vous avez fini par découvrir avec des spécialistes qu'il est atteint de cyclothymie, une forme de la bipolarité, une forme qui frappe les enfants, mais les adultes également. Quelle est la différence entre la bipolarité de manière générale et cette sous-bipolarité, la cyclothymie ?
Alors, la cyclothymie fait partie en fait des spectres du trouble bipolaire. Et c'est effectivement une forme qui est moins connue. On va avoir des épisodes... ça va être une forme de bipolarité qui est plutôt chronique qu'épisodique. On pense souvent à la bipolarité dans sa forme typique et caricaturale, où il va y avoir des épisodes beaucoup plus longs qui vont s'étaler sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, alors que dans la cyclothymie, vous êtes sur des cycles très courts qui vont durer une journée, voire avec des changements d'humeur dans la même journée, par exemple.
Oui, il peut y avoir plusieurs crises très, très proches.
Oui, en fait, il y a rarement ce qu'on appelle des périodes d'euthymie où l'humeur est normale, contrairement à la bipolarité typique.
Donc c'est un enfant qui va être négatif, qui va tout prendre mal, c'est ça ?
C'est aussi la forme du trouble bipolaire avec le plus de risques suicidaires. Donc en fait, oui, tout peut faire étincelle.
Oui, et alors...
Une intolérance à la frustration qui est très forte.
Oui, oui. Et ça n'a rien à voir avec l'éducation ou les parents.
Exactement, c'est le
trouble.
Ça n'a rien à voir. C'est une maladie neurobiologique, en fait. C'est un problème de dysrégulation au niveau des neurotransmetteurs.
Oui. Et alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Comment on établit une thérapie ? Quelles sont les thérapies ?
Alors, la prise en charge de première intention chez l'enfant... C'est l'avantage du diagnostic précoce, c'est la psychoéducation, donc pour les parents et pour l'enfant. La psychoéducation, c'est devenir expert du trouble de son enfant. Et puis la TCC, thérapie comportementale et cognitive, ça va nous permettre d'apprendre à mieux gérer les émotions et à savoir modifier certains comportements.
Oui.
Donc ça, c'est la première intention. Et ensuite, si nécessaire, on peut rajouter un thymorégulateur qui est un médicament qui permet de réguler l'humeur. Et souvent, en fait, il permet à l'enfant d'accéder plus facilement à la thérapie.
Oui, et c'est ce que Stan a reçu. Il a reçu un traitement médicamenteux et ça lui a réussi.
Alors, le médicament, c'est vraiment une béquille. C'est pas magique. Ça permet de réduire l'intensité, la fréquence. L'intensité, la fréquence et la violence des crises. C'est vraiment tout le travail de thérapie.
Oui, oui. Et alors, il a pu, ça a été compliqué, mais il peut être à l'école, ce qui serait compliqué s'il n'avait pas évolué dans le bon sens, hein, puisque les maîtresses en maternelle, elles n'en pouvaient plus. C'est vraiment très dur de supporter un enfant qui est en crise permanente.
Oui, c'est un traumatisme, en fait, de la même façon que les parents vivent dans l'angoisse de la prochaine crise et se remettent en question, en fait, parce qu'ils se demandent ce qu'ils ont raté. Et ben, les enseignants, même si c'est plus ou moins inconsciemment, ils le prennent pour eux, en fait. L'échec de l'enfant, c'est aussi leur échec.
Oui, et s'ils n'arrivent pas à établir l'ordre en classe à cause d'un enfant cyclothymique, ils le prennent pour lui et ils peuvent prendre en grippe cet enfant et ils peuvent finir par le faire.
Exactement, exactement.
C'est ce qui s'est produit pour Stan ?
Alors ça, on est resté quand même beaucoup dans la communication avec tous les enseignants. Moi, j'ai jamais caché les problèmes de Stanislas. J'ai toujours essayé de faire équipe avec les enseignants, mais effectivement, il y en a qui sont plus ou moins ouverts.
Oui, oui, oui. Et donc, il a pu faire sa scolarité normale. Il a 13 ans aujourd'hui. Il en est où ?
Alors, il a 13 ans aujourd'hui. Il est en 5e. Donc, il a un PAP parce qu'il a aussi des troubles 10 qui sont souvent associés à la cyclothymie.
Donc, un PAP, c'est quoi ?
C'est un plan d'accompagnement personnalisé. Donc, il lui permet d'avoir certains aménagements. Mais voilà, il a une bonne moyenne générale. Il a un groupe de copains. Voilà,
ça va ?
Il va super bien.
Ça va très bien.
Ouais. Ouais. Et les crises ont totalement disparu à la maison.
Voilà. Et alors, il est comment aujourd'hui ? S'il y a une frustration, s'il y a un souci, comment il réagit ?
Non, il a vraiment largement appris à gérer. Donc, il peut avoir un petit mouvement d'humeur, mais voilà, ça va durer quelques secondes. Et puis, il se ressaisit. Souvent, il revient nous voir après et puis s'excuse. Voilà. Et puis, on a toujours eu... On a toujours beaucoup verbalisé, ça a été très important dans notre relation, la communication, le lien affectif n'a jamais été rompu.
Oui, oui, c'est ce que vous expliquez, donc votre enfant va bien, vous êtes confiante pour l'avenir, a priori il va aller de mieux en mieux, enfin, en tout cas il n'y aura pas de dégradation de son humeur.
Alors l'espoir justement avec le diagnostic précoce, c'est effectivement de pouvoir éventuellement arrêter le traitement quand il sera un jeune adulte.
Qui est quotidien.
Voilà, son psychiatre lui expliquait que pour l'instant on le maintenait parce qu'il n'avait aucun effet secondaire et ça servait, c'était plus vraiment un soin aujourd'hui, mais c'était comme une ceinture de protection, une ceinture de sécurité en fait. Et quand il sera jeune adulte, au moment où tous les facteurs environnementaux seront favorables, qu'il aura choisi un métier qui lui plaît, qu'il aura une vie sentimentale épanouie, on pourra à ce moment-là essayer d'arrêter le médicament.
Oui. Et comment il se définit lui-même, Stan, aujourd'hui, il a 13 ans, il se définit comment ? Par rapport à sa maladie ?
Alors, nous, on a toujours été très clairs avec lui. C'est quelque chose qui ne le définit pas, qui ne le caractérise pas. C'est une partie de lui, mais voilà, c'est tout. Et aujourd'hui, comme il a appris à gérer, il arrive à en tirer le meilleur, en fait, le positif. Parce que c'est des enfants qui sont aussi extrêmement créatifs, qui sont très intelligents, qui ont beaucoup d'empathie. Donc, c'est des qualités qui sont précieuses dans notre société.
Oui, vous racontez que déjà tout petit, il avait son atelier, il fabriquait des marionnettes ou des...
Oui, ouais, ça a toujours été un peu géotrouve-tout. Oui, c'est pour son anniversaire, il nous demandait des rouleaux de scotch, un fer à souder. Il ne nous a jamais demandé des jouets normaux, hein, oui. Où il les fabriquait lui-même.
Voilà, un original. Donc.
Voilà, c'est ça, voilà. Exactement.
Et qu'est-ce qu'il veut faire plus tard dans la vie ?
Il veut être inventeur.
Très bien, bah, parfait. En tout cas, il a déjà des compétences, il a de l'expérience, il peut devenir inventeur.
Tout à fait, je pense que voilà, il a des ressources qui peuvent lui permettre.
Voilà. On va continuer, Laetitia Payen, à parler de cyclothymie. Alors, le titre de votre livre, Mon enfant cyclone, pas pour cyclothymie, c'est ça ?
Exactement.
Voilà, ouais. Aux éditions Flammarion, et notamment de l'association dont vous êtes la présidente aujourd'hui, Bicycle, qui aide des enfants et des adolescents cyclothymiques.
Vous écoutez Vivre c'est épatant avec Carole Clémence.
On parle de cyclothymie aujourd'hui avec Laetitia Payen, maman de Stan, cyclothymique lui-même. Elle raconte l'histoire de Stan et la sienne, celle de sa famille, dans le livre Mon enfant cyclone aux éditions Flammarion. Une histoire compliquée au début, très dure. Hein, vous parlez de destruction. Vous dites qu'il nous détruisait au départ. C'était quand il avait 5 ans. C'était tellement dur à vivre. Pour la petite sœur également, puisque elle prenait
soeur.
Tout.
Hein.
Voilà. Ouais. Oui, la grande sœur, elle était petite, mais elle était plus grande que son frère, évidemment, et elle prenait tout, hein. Elle prenait sur elle pour pas vous embêter. Elle voyait que c'était compliqué pour vous.
Je la soupçonne d'être particulièrement sage et d'être particulièrement bonne élève pour nous enlever un poids, en fait.
Oui.
Voilà. Elle se rendait compte que c'était déjà tellement difficile avec son frère que... Elle faisait tout pour nous aider.
Oui, oui. Et alors les choses se sont améliorées. Aujourd'hui, il y a 13 ans. Comment ça se passe au sein de la famille ?
Ah bah ça, tout a changé, en fait. Je pense qu'on n'aurait jamais eu cette relation-là, finalement, sans ce trouble. Moi, je dis souvent qu'on n'aurait jamais été d'aussi bons parents, finalement. On a vraiment appris à envisager la famille comme une équipe. Et on est très soudés les uns aux autres et il n'est pas rare que sa sœur prenne la défense de son frère.
Très bien, oui. Et alors qu'au début, elle souffrait beaucoup, elle se rendait compte que son frère lui rendait la vie impossible, elle en avait marre.
Tout à fait,
Et vous ne pouviez jamais avoir un temps avec elle, toute seule, en tant que parent, parce qu'il y avait le petit frère derrière qui répliquait.
Il prenait beaucoup de place. Alors pour ses 10 ans, quand même, elle nous a, quand on lui a demandé ce qu'elle voulait, elle nous a dit « je voudrais partir en vacances sans mon frère ». Et on lui a offert, on n'est pas parti en vacances sans son frère, mais on lui a offert un week-end, tous les trois, avec son papa et moi et elle, voilà, juste pour elle.
Très bien, oui, oui. Et alors j'imagine que ça va mieux effectivement. Et vous vous êtes engagé, vous, après le diagnostic de Stan, dans une association Bicycle qui s'occupe des enfants et des adolescents cyclotymiques. C'est la seule de France qui s'en occupe.
Exactement.
Voilà, et vous êtes aujourd'hui présidente.
Oui.
Alors, quelles activités propose votre association? Quelle aide on peut y trouver?
Alors, on est là pour soutenir les parents d'enfants cyclotymiques, donc répondre à leurs questions sur les problèmes de comportement de leurs enfants, les rassurer, les orienter vers les professionnels compétents. On a développé aussi plusieurs outils, dont le principal, sont nos ateliers tandem, qui sont des ateliers de psychoéducation à l'attention des parents et dans un souci d'accès aux soins pour tous, parce que les parents ont tendance à tout faire reposer sur les médicaments seuls. Ces ateliers sont gratuits et offerts à nos adhérents. Ils se déroulent sur une journée sous la forme d'un stage où on leur apprend à mieux réagir aux crises de leur enfant.
C'est quoi? Ce sont des jeux de rôle, c'est ça?
Alors on a une première partie, la matinée théorie, donc on explique qu'est-ce que fait la cyclotymie dans le cerveau de son enfant. Et ensuite l'après-midi, on a effectivement une partie plus jeu de rôle où on essaye de décrypter les comportements des enfants et comment y réagir. On y réfléchit tous ensemble.
Oui, et vous êtes sur toute la France, même en dehors dans des pays.
Oui, tout à fait. Même l'atelier tandem, on l'organise aussi en visio depuis le Covid. Donc, on va en organiser un prochainement. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à nous contacter si les gens, les parents sont intéressés pour y participer. C'est des ateliers qui ont lieu sans les enfants.
Très bien. Et l'association Bicycle. Mais justement, les enfants, on les met où? Enfin, l'enfant cyclotymique, on le met où lorsqu'on fait
Ah bah alors là, les parents effectivement s'arrangent pour le faire garder. On ne prend pas les enfants avec nous, on n'a pas de service de garde.
Oui, voilà.
Pas encore.
Mais on peut y penser, parce que ça a été très difficile pour vous de trouver une garde pour Stan. C'était très compliqué de trouver quelqu'un qui accepte sur le long terme.
C'était compliqué. Mais mes parents nous ont sauvés, on peut le dire.
Oui, voilà. Oui.
Et parce que même quand ils nous disaient « Non, mais la prochaine fois, on ne les gardera plus », ils les gardaient quand même.
Oui,
voilà.
Oui, parce que on a du mal à s'imaginer, mais votre mère, par exemple, était en pleurs lorsqu'elle vous racontait ce qui se passait. C'est terrible, quoi. C'est tellement dur de vivre avec un enfant cyclotymique sévère.
Ouais, c'est au quotidien, c'est extrêmement compliqué et oui, on craque en fait.
Oui. Et comment faire la différence lorsqu'on voit un enfant dans son entourage, un enfant qui est mal élevé, qui a un comportement inacceptable, et un enfant cyclotymique? Comment est-ce qu'on se dit, ce petit-là, il est insupportable, peut-être qu'il est cyclotymique?
Alors, en fait, c'est pas parce qu'un enfant a des troubles du comportement sévère qu'il est bipolaire. C'est pas du tout le message de l'association.
Oui.
En fait, déjà, quand un enfant est cyclotymique, ce sont des troubles qui ont une intensité et une fréquence extrême. C'est des troubles qui ne vont pas passer, qui vont s'aggraver. Et le trouble du comportement, c'est vraiment un symptôme qu'on appelle non spécifique. C'est-à-dire qu'il est retrouvé dans plusieurs troubles où l'enfant n'a pas forcément de troubles. Donc, il faut vraiment regarder l'ensemble des symptômes pour pouvoir poser ce diagnostic.
Oui. Et alors le diagnostic qui est dur à poser pour certains parents parce que le personnel médical ne connaît pas forcément ce trouble-là. On connaît la bipolarité, mais pas forcément la cyclotymie.
Oui, il y a une vraie réticence en France à poser ce diagnostic chez l'enfant de moins de 15 ans parce qu'on part sur des critères diagnostiques de l'adulte et de la bipolarité typique et caricaturale. Or, chez l'enfant, les symptômes sont différents. Je pense notamment à la phase dépressive. Chez les très jeunes enfants, la dépression se traduit plutôt par de l'irritabilité et des colères explosives. Voilà. Mais même s'il peut y avoir aussi de la tristesse et du repli sur soi, mais C'est plus rare quand ils sont très jeunes.
Oui, oui. Et alors, vous essayez au sein de l'association de faire connaître ce trouble aux médecins généralistes. C'est très compliqué.
On a quand même, à force, l'association existe depuis 12 ans maintenant. Oui. Donc, les mentalités ont quand même beaucoup évolué depuis une vingtaine d'années. Il y a beaucoup de littérature scientifique maintenant sur le sujet. Donc, voilà, on progresse et on a un réseau un peu partout. En France.
Oui, alors depuis une vingtaine d'années, on connaît, c'est étudié dans la littérature scientifique, mais avant, est-ce que ça, il n'y avait pas d'enfants cyclotymiques ?
Je pense que c'est un défaut de connaissance, parce que même la bipolarité, on en a parlé dès l'Antiquité, donc bien avant, parce qu'il y a certaines personnes qui nous disent que c'est pour donner des médicaments aux enfants, alors que c'est tout à fait l'inverse. Il n'y avait pas de laboratoire pharmaceutique dans l'Antiquité. Et voilà, vraiment l'enjeu du diagnostic précoce, c'est justement d'éviter à ces enfants des drames, des tentatives de suicide, des cocktails de médicaments à des fortes doses. Donc voilà, c'est tout l'enjeu du diagnostic précoce.
Oui, et puis une vie normale.
Exactement, une vie normale.
Et puisqu'on comprend bien que si Stan n'avait pas été traité, il ne pourrait pas être à l'école comme il l'est aujourd'hui et avoir une vie sociale comme il l'a aujourd'hui.
Tout à fait. On ne sait pas comment ça aurait pu évoluer. Aujourd'hui, en France, la bipolarité chez l'enfant, c'est la dernière chose qui est évoquée après la maltraitance, les problèmes éducatifs et tous les troubles du neurodéveloppement. Il faut souvent un événement grave comme une tentative de suicide pour poser le diagnostic. Alors oui. Qu'on parle beaucoup du diagnostic précoce, mais le véritable enjeu du diagnostic précoce, c'est l'enfance du trouble bipolaire.
Oui, oui. Et d'où l'intérêt de se renseigner, d'aller voir des associations spécialisées comme la vôtre pour les enfants cyclotymiques, les enfants et adolescents. Donc cette association Bicycle, dont vous êtes la présidente, Laetitia Payen. On va conclure cette émission. Je rappelle le titre de votre livre, Mon enfant cyclone, le tabou des enfants bipolaires, chez Flammarion. Un dernier mot peut-être avant de conclure ?
Alors, je pense qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est la connaissance. La bipolarité chez l'enfant, c'est un véritable enjeu de santé publique pour qu'il ne soit plus jamais trop tard.
Oui. Merci Laetitia.
C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.